Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set,
toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York.
Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th.
All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, en direct de la Belgique, avec moi, hey. Monsieur Philippe.
Hello Alex, ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va.
Yes, il s'est passé un beau temps des fêtes, c'est la première fois qu'on se parle là, depuis...
Bonne année d'abord.
Toi aussi.
Et donc, oui, c'était des fêtes assez tranquilles, mais très, très bien. Ouais.
Bon, parfait, ça. C'est ça qu'il faut. Nous autres, ça a été des fêtes, sans neige.
Ah oui, chez nous aussi, hein, avec des températures vraiment très élevées. On a eu, je pense, un truc comme 11 degrés.
Ah, oh, ouais.
Ouais. Là, il fait froid maintenant.
Ouais, nous autres aussi, là, on a eu... Il annonçait une tempête de neige durant la nuit. Finalement, ça s'est transformé à Montréal plus en pluie vers de la cendre.
Ah oui.
Mais là, au moins, on a de la neige. Là. Ça ressemble plus à un hiver.
Oui, c'est ça, exactement.
Philippe, je te laisse nous présenter le sujet du jour, notre balade meurtrière du jour.
Yes. Donc, les chansons racontent des histoires et parfois ce sont des histoires de crimes. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une chanson très connue, cette fois-ci, contrairement à certaines chansons dont on a parlé dans les épisodes précédents. C'est le grand hit de Foster the People qui s'appelle Pump Up Kicks. Alors, qui a été téléchargé 1,6 milliard de fois sur Spotify, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ce succès.
Ah, j'ai une anecdote, moi, avec cette bande-là.
Tu commences par anecdote?
Ouais, on peut commencer avec ça. Ouais.
Vas-y.
Une année, je suis descendu en Gaspésie, puis j'ai emprunté l'auto à ma mère. Mon auto avait un problème, puis j'ai oublié mes pochettes... J'ai oublié mes pochettes de CD dans mon char. Fait que moi, je suis parti, puis j'ai pas checké qu'est-ce qu'il y avait comme musique. Puis dans... ma mère avait tout un... habituellement beaucoup d'albums quand même dans son auto. Fait que je me suis dit, correct, là, j'ouvre ça, un petit compartiment où ce qu'elle avait mis ses albums, puis elle avait fait le ménage. Il restait deux albums, Mario Pelcha et justement celui-là. Fait que j'ai écouté pendant
boucle,
12 alors. Heures. 12 heures de route, ce style d'album-là. Je l'ai jamais réécouté.
Non, je comprends. Après, ça va, c'est pas pire comme album, quoi.
Ouais, c'est bon, mais...
Ouais. Mais je comprends que... Ouais, exactement, c'est un peu comme...
On avait plein mon cul. Alors, Philippe?
Alors, on parle de Foster the People, et Foster the People, c'est le groupe d'un monsieur qui s'appelle Mark Foster. Donc, ce gars, c'est un compositeur qui a débuté dans la publicité et qui a composé des jingles pour des publicités. Alors, j'ai un peu cherché, j'ai rien trouvé de très connu qu'il avait composé, mais voilà, c'est quand même un grand professionnel de la musique publicitaire. Et en 2009, il s'associe avec deux musiciens qui s'appellent Marc Pontius et Greg Krustin. Et puis, un peu plus tard, il recrute un quatrième musicien qui s'appelle Cubby Frink. Et ensemble, ils créent le groupe Foster and the People. Et puis, ils vont raccourcir le nom. Ça va devenir Foster the People parce que, en fait, dans les premiers concerts qu'ils ont fait, les gens mangeaient le and et donc ils ont gardé le Foster the People.
Okay.
Alors, évidemment, c'est pourquoi Foster the People? Parce que finalement, foster, c'est un verbe en anglais qui veut dire promouvoir et donc, ou faire grandir. Et donc, Foster the People, ça veut dire faire grandir les gens. Au départ, c'était évidemment son nom de famille, hein, Foster. Mais... La coïncidence était trop belle, donc ils ont gardé Foster the People. Voilà, mais le jeu de mots est tout à fait, au départ, tout à fait accidentel. Alors, au niveau du style, on est plutôt dans un style, on va dire, indie pop, avec un peu de rock, avec un peu de dance, enfin ce qu'on appelle de l'alt dance, et un peu de musique électronique. On a un mélange qui est quand même qui est assez intéressant.
Ah, c'est tout est bien dosé dans l'album.
C'est un bon album. C'est ça. Exactement. Oui, franchement, c'est une réussite. Et le succès va être presque immédiat avec le titre Pump Up Kicks.
Avec sa tournée des radios.
C'est dingue, hein. Et en fait, au départ, ils n'étaient pas connus, c'était leur première création. Et ils l'ont mis sur leur site web à partir de 2010. Donc, il était en écoute gratuite. Mais j'imagine que le réseau d'un créateur de musique de pub a fait que des blogueurs ont commencé à s'intéresser à cette musique. Et le morceau est devenu viral.
Okay.
Et puis, il est apparu un an plus tard sur un album qui s'appelle Torches, qui est sorti en 2011. Mais bon, le succès était déjà là. Alors, l'histoire de la chanson, enfin, l'histoire de la création de la chanson, donc c'est ce chanteur, guitariste, fondateur, Mark Foster, qui l'a écrite parce qu'il s'ennuyait au boulot. Ça peut m'arriver, tu vois, d'écrire quelques lignes au
De
boulot.
t'ennuyer au boulot, ça?
Oui, voilà, et du coup, dire, tiens, quelle balade meurtrière, je raconterai la prochaine fois. Donc, Foster pensait qu'il allait enregistrer une démo. Et donc, pour cet enregistrement, il a tout enregistré lui-même, la voix, les backup vocals, les instruments,
Okay.
y compris la rythmique. Il a édité, arrangé la chanson lui-même avec un logiciel qui s'appelle Logic Pro. Mais finalement, rien n'a changé. Donc, c'est la démo qui est devenue la version définitive.
Ah, nice.
Ouais.
C'est
Et donc,
déjà
il a.
parfait de même.
Ouais, c'est ça. C'était un peu comme dans le cas de Nebraska, hein, où il avait fait. Dans notre premier épisode de Balade meurtrière, de Bruce Springsteen, il avait aussi fait cet album en pensant que c'était une démo, et puis finalement, c'est devenu l'album définitif. Et quand il a écrit la chanson, il a d'abord écrit le refrain, hein, donc All the other kids with the pump up kicks, you better run, outrun my gun. Et à ce moment-là, il ne pensait pas forcément que. Il avait créé quelque chose qui évoquait une affaire criminelle. Il imaginait plutôt que ce Outrun My Gun, hein, donc être plus rapide que mon arme, c'était plutôt quelque chose de symbolique. Et le personnage qui parlait, ben, finalement, c'était plutôt l'expression d'une forme de confiance absolue qui conférait presque à la toute-puissance. Donc, comme je le disais, c'est immense succès, hein, de l'album dans les magasins, mais aussi bien sûr en téléchargement, notamment sur Spotify. Et ce qui est frappant dans la chanson, c'est le côté très très joyeux de cette chanson. C'est vraiment le genre de chanson, quand tu l'écoutes, c'est plutôt feel good, quoi. C'est plutôt une chanson qui va te
Ça me fait
faire.
penser un peu dans la rythmique d'une comptine, un peu pour tu sais, que tu vas chanter dans un camp ou
Ouais.
dans le refrain ou quelque chose de même. Tu sais, quand t'es jeune, tu vas dans les camps de jour, ça pourrait ressembler à
Ouais.
une chanson que tu pourrais chanter un peu dans accrocheur de même.
Bah oui, exactement. Oui, c'est vraiment, c'est ouais, très, très, très happy.
Puis c'est très, tu sais, c'est ça, le refrain, c'est comme un peu. Il y a comme plusieurs voix qu'il chante, fait que ça fait comme
Oui.
un regroupement, puis c'est, en tout cas, c'est bien fait.
Oui, c'est vraiment bien fait, effectivement. Et donc, le premier couplet de la chanson parle d'un certain Robert. Un Robert qui a une. Qui a, on dit Robert's got a quick hand. Donc, ça veut dire. A quick hand, c'est souvent lié aux armes à feu. Hein, c'est quelqu'un. C'est un peu dans l'univers des cow-boys, c'est cette capacité à dégainer très vite. On pourrait traduire ça par Robert dégaine très vite. He look around the room, but won't tell you his plan. Donc il regarde autour de la pièce, mais ne va pas vous raconter quel est son plan. He's got a rolled cigarette. Il a une cigarette roulée qui dépasse donc hanging out his mouth, qui dépasse de sa bouche. He's a cowboy kid. Yeah. Donc c'est un enfant cow-boy. Yeah. Et puis donc les paroles continuent à parler de cette journée, de ce Robert qui trouve une arme dans le placard de son père et qu'il y a aussi a box of fun things, donc probablement des munitions. Et alors, la fin du premier couplet dit I don't even know what, but he's coming for you. Yeah, he's coming for you. Donc il y a quelque chose de menaçant, évidemment, dans ce couplet. Alors, j'ai un peu triché parce que il n'y a pas vraiment une seule histoire vraie derrière cette chanson. C'est pas qu'il y a un fait divers particulier, parce que le Robert de la chanson n'existe pas. C'est plutôt un archétype Un adolescent qui a trouvé une arme dans le placard, qui va aller quelque part où il va s'attaquer à des étudiants qui portent des pump-up kicks. Alors, tu sais ce que c'est, les pump-up kicks?
Vite de même, non.
Alors, moi, je ne savais pas non plus, hein, mais c'est
C'est
les
les Nike
chaussures.
qui se pompaient,
Ouais, c'est des Reebok, mais
là.
c'est ça.
Ok.
C'était les chaussures Reebok de basket avec la petite boule au
Bon,
milieu. Poussait, ça, effectivement, ça regonflait ta chaussure et c'était censé t'assurer un bon maintien du pied pour jouer au basketball.
ouais.
Et voilà, c'était très à la mode, je pense, dans les années 90. Hein, ça devait être. Voilà, la chaussure d'une époque. On n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, je pense.
Je pense pas, je me rappelle pas en tout cas.
Mais toi, t'es trop jeune. Et puis,
Ah, mais
donc.
je me rappelle des souliers de main, je me rappelle des amis qui ont eu des souliers comme
Ah
ça, puis
oui. OK.
mais que là, il y en a, je pourrais pas te dire s'il y en, en vend encore.
Ouais, à mon avis, ça doit encore se vendre, mais plutôt, tu vois, avec un côté un peu vintage comme ça.
Avec les années 90 qui sont revenus à la mode,
Voilà, exactement. Alors, on parle de Robert dans la chanson, ou Robert, et certains auditeurs de la chanson ont pensé que ça faisait, à cause du prénom, référence à une affaire criminelle qui s'appelle le massacre du Mall de Westroads, qui a été perpétré en 2007 par un individu qui s'appelle Robert Hawkins.
Ok.
C'est une tuerie qui est très célèbre, enfin, pas très célèbre, peut-être pas si célèbre que ça, mais qui est célèbre en tout cas pour être le meurtre de masse qui a fait le plus de victimes dans l'État du Nebraska depuis 1958. Et est-ce que tu sais ce qui
Ok.
s'est passé dans le Nebraska en 1958?
Non, je te laisse y aller.
Il y a eu une affaire de Starkweather et de Carilyn Fugate qui a inspiré la chanson Nebraska de Bruce Springsteen.
Ah oui, le
Exactement. Donc voilà, voilà, depuis cette affaire-là, hein, on rappelle pour les auditeurs qui découvriraient l'émission que on a fait un épisode, hein, sur Starkweather et Carilyn Fugate autour de la chanson au Nebraska de Springsteen. Donc, on se retrouve à nouveau dans le Nebraska avec Robert Hawkins. Et donc, c'est pas une attaque d'école dans ce cas-là. C'est un jeune homme de 19 ans, je pense, à l'époque des faits, qui laisse le 5 décembre 2007 une lettre de suicide dans laquelle il dit: I just want to take a few pieces of shit with me, just think though I'm gonna be fucking famous. Je veux juste emporter quelques merdes avec moi. Pense bien que je serai une putain de célébrité. Lettre très courte mais très explicite. Et évidemment, la célébrité, c'était une célébrité pour
Morbide.
de très mauvaises raisons, exactement. Donc, il s'est rendu dans un centre commercial à Westroad, très lourdement armé. Il a tué 8 personnes et blessé 4 personnes avant de retourner l'arme contre lui.
OK.
Mais voilà, c'est pas cette affaire-là, hein, dans Pump Up Kicks. C'est en fait, c'est on parle plutôt de quelque chose qui évoque une école. Et même si on est longtemps après dans le temps, on est 10 ans plus tard, enfin, ça évoque quand même le massacre de Columbine, qui est probablement la tuerie d'école la plus connue. Donc Columbine, ça a lieu le 20 avril 1999. On parle de la Columbine High School à Littleton, dans le Colorado. Et on a deux assassins, c'est Eric Harris et Dylan Klebold, qui sont étudiants dans l'école où ils ont fait le massacre. Et ça fait un an en fait qu'ils planifient une tuerie dans l'école qui va devenir la fusillade, je pense, en tout cas, une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Alors, je pense qu'il y a eu des fusillades pires, mais celle-là, elle est assez récente et elle est quand même très, très, très. Voilà, ça a été fatal à beaucoup de monde. Et donc, c'est resté vraiment dans la culture populaire. Alors, je rappelle quand même très, très rapidement les faits. Donc, les deux adolescents rapportent des armes à feu, des bombes artisanales qu'ils ont fabriquées eux-mêmes et différents dispositifs incendiaires. Ils mettent ça à l'intérieur de l'école. Les bombes qu'ils avaient fabriquées n'ont pas bien fonctionné. Alors, de frustration, ils se sont plutôt attaqués à l'arme à feu aux autres étudiants. Ça commence dans la cafétéria, avant de se propager notamment dans la librairie, dans la bibliothèque de l'école. Et au total, il y a 12 élèves entre 14 et 17 ans et un enseignant qui vont perdre la vie, et puis une vingtaine d'élèves qui vont être blessés, dont certains très gravement. Et les deux attaquants vont tirer 188 munitions ce jour-là. Et après leur massacre, les deux se suicident dans la bibliothèque de l'école. C'est là où ils avaient fait le plus grand nombre de victimes. Alors, l'enquête a révélé que les deux jeunes avaient exprimé leur frustration, leur colère et aussi très souvent leur fascination pour la violence dans des journaux intimes ou des vidéos qu'ils avaient préenregistrées. On a aussi découvert qu'ils avaient été intimidés à l'école.
Okay.
Et Harris avait développé des fantasmes très dérangeants. Alors, je vais pas rentrer dans le détail puisque c'est vraiment très dérangeant. Mais en gros, il se rêvait tueur en série de femmes et il développait un fantasme de cannibalisme. Voilà. Donc, il y avait quelque chose de très, très inquiétant.
Très sain.
Et à cette époque-là, en 99, je pense que les baskets Reebok à pompe étaient encore très, très populaires. Alors, c'est un massacre qui a eu beaucoup d'impact. En fait, on s'en souvient tous, je pense. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se souviennent de ce massacre parce qu'on l'a. Il y avait quelque chose d'étrange aussi notamment dans le personnage de Klebold, avec ses longs cheveux blonds. Il y avait quelque chose un peu de grunge. Hein. C'est aussi cette époque, l'époque du début de Nirvana. Et puis, bah, ça a pas mal inspiré des créateurs. Donc, je ne sais pas si tu as vu le documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore, ça te dit quelque chose?
Non.
Alors, c'est un documentaire assez choc
OK.
sur la facilité que les jeunes Américains ont de se procurer des armes. Il y a un film qui est une fiction, mais c'est très, très inspiré de cette affaire qui s'appelle Elephant de Gus Van Sant. C'est vraiment un très, très bon film. Et puis, il y a une chanson très connue de Marilyn Manson qui s'appelle The Nobodies, qui est sortie très, très peu de temps après le drame. Disons qu'à mon avis, elle a dû être enregistrée 6 mois après. Elle est sortie un an après le drame. Et c'est une des chansons les plus connues de Marilyn Manson. De Nobody, ça vient à la fois de l'assassinat de John Lennon,
Okay.
mais ça a été repris. De Nobody, c'est vraiment ces gens qui ne sont rien, enfin qui ne sont rien, qui sont perçus comme n'étant rien et qui tout d'un coup entrent dans la célébrité par ce genre de massacre. Et là, il y a vraiment un lien très fort entre cette affaire et l'univers de Marilyn Manson. D'abord parce qu'ils étaient fascinés par Marilyn Manson et ensuite parce que Marilyn Manson a fait cette chanson juste après le massacre. Je reviens à Mark Foster parce qu'il y a quelque chose d'un peu. Enfin, on lui pose toujours la question de dire mais de quoi vous parlez dans cette chanson? Et lui, pour lui, c'était compliqué parce que c'était leur premier succès. Leur premier succès parlait d'un sujet qui était quand même très polémique. Et de se dire, tiens, c'est bizarre de rentrer dans l'univers de la musique avec un sujet aussi dur. Et donc, il a dû se justifier, notamment, bah, il a déclaré que ce n'était pas du tout un morceau qui était là pour mettre en valeur la violence. Il disait que c'était exactement le contraire. Et que le morceau était plutôt une plateforme pour entamer une conversation avec les enfants, par exemple. Parce que c'est vrai que moi, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'avais mis ça. Enfin, cette chanson, elle est sur la playlist de ma fille qui a 7 ans. Bon, après, elle ne parle pas anglais. Mais tu vois, elle pourrait me poser la question de. Ça parle de quoi cette chanson? Et donc, je ne sais pas si je pourrais déjà lui. Ça parle d'une tuerie de masse, mais voilà, ça
Sur un
peut être
air très joyeux.
effectivement un déclencheur. Oui, voilà, tout à fait.
C'est des contrastes le fun, ça, qui arrive dans des fois
Oui,
dans des
hein,
chansons.
c'est dingue. Bah, c'est comme.
Il y avait Rouge Pompier qui ont
Ouais.
sorti la chanson Paul. Qui
Ouais,
parle
on
d'un
avait
gars
parlé la fois passée.
qui se suicide à cause d'un problème de jeu, mais sur un beat super
Ouais.
joyeux.
Ouais, on avait parlé, et puis on avait parlé de I Don't Like Mondays aussi, qui est très très joyeux comme chanson. Et ouais, il y en a beaucoup, hein, des chansons qui abordent des sujets très 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 graves, quoi.
Ah oui, il y en a
Alors
beaucoup.
malheureusement, ouais, il y en a beaucoup, et ça pourrait faire une chronique spécifique sur les contrastes entre la musique et les paroles, je trouve. Alors
C'est
depuis
vrai.
Columbine, malheureusement, il y a eu plein, plein, plein d'autres attaques d'école. On parle de plus de 150. Alors, elles n'ont pas toutes fait des morts parce que parfois, il y a eu les autorités qui ont pu réagir. Mais il y a un chiffre, enfin, moi, je trouve que ça fait froid dans le dos, c'est que depuis 2000, les tueries d'école ont fait 1188 victimes donc en 23 ans. dont 383 morts rien qu'aux États-Unis. Donc c'est un vrai phénomène de société. Et j'ai un peu regardé au niveau du Canada, il y en a pas beaucoup, et au niveau du Québec, il n'y a rien à part
On a
le
deux à
cégep, quoi.
Québec. Ouais.
Ah oui, je connais l'histoire du cégep et je ne connais pas l'autre, je
Il y
crois.
a Dawson, puis il y a eu Polytechnique.
C'est ça, Polytechnique, ouais.
Il y a eu deux tueries, là, justement, là.
Ouais.
Dans les écoles au Québec,
Mais aux
c'est
États-Unis,
vrai.
c'est tout le temps, quoi. C'est-à-dire que sur une année, tu vas en avoir 6 ou 7 sur une année normale, quoi. Incroyable.
Ouais, ça c'est fou. L'autre jour, j'ai dû, je pense que c'est ça, j'ai dû annuler un enregistrement parce que il y avait une alerte de tous les élèves étaient barricadés dans une école que moi j'allais faire. Puis il y avait des gens
Ouais.
qui avaient voulu faire une blague, là, qui étaient arrivés avec des faux fusils à
Oh
l'école.
my God.
Mais tout était barricadé, les rues, on pouvait pas passer nulle part. Il y avait un gros
Ah, je comprends.
périmètre de sécurité, c'était n'importe quoi, là. Mais tout ça pour une blague, finalement, une chance que c'était ça. Mais j'imagine pas, tu sais, moi, quand
Ouais.
j'étais arrivé avec l'autobus, les parents étaient tous dehors, sur le bord des gates de sécurité que la police avait mis. Puis être un parent, d'attendre, là,
Ben
puis tu
oui.
sais pas ce qui se passe, là. Et tabarnak.
Ouais. Ouais, j'espère que les blagueurs ont quand même été un peu punis, quoi, parce que.
Ben là, Chris, il y avait toute une affaire de. Tu sais, toute une équipe de police, puis une équipe spéciale qui était déployée. Puis, fait que d'après moi, ça doit avoir coûté quelque chose.
Oui, c'est ça, exactement. Il faut au moins les punir au portefeuille, quoi.
Non, oh, ouais, c'est ça,
Et puis voilà.
mais. Oui.
Dans les massacres, les attaques d'école, il y en a une qui a été chantée par un autre groupe. Alors, à mon avis, c'est pas ton genre de musique parce que c'est du métal chrétien. Le groupe a quand même un peu de notoriété. Il s'appelle POD. Et donc la chanson qui
POD?
s'appelle, j'ai un trou de Youth of the Nation.
Ouais,
Oui, le groupe
je
s'appelle
connais ça.
POD. La
Je
chanson
les ai
s'appelle
vus en
Youth of the
spectacle.
Nation. Ah ben voilà, ça doit être pas trop mal quand même en
Oui, c'est
spectacle.
bon. Oui, c'était bon
Mais
au
voilà,
festival.
voilà exactement, vraiment du new metal, pas mal fait avec quelques influences un peu, avec des rythmiques un peu plus funk. Enfin, c'est pas mal. Et donc bah, la chanson c'est Youth of the Nation, c'est-à-dire une chanson qui a eu pas mal de succès et elle raconte l'histoire vraie du Santana High School Shooting. Et alors elle est beaucoup moins connue que celle de Columbine, mais elle arrive juste après. Et j'en parle parce que cette histoire est dans l'actualité, presque l'actualité du jour, parce que le tueur va potentiellement sortir de prison cette année.
Ah, ouais.
Alors ce tueur, c'est Charles Williams. Et en 2001, il a 15 ans. Donc ça veut dire qu'il a 38 ans aujourd'hui. C'est pas un vieux monsieur, quoi.
Non, 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 non.
Et Charles était intimidé à l'école parce qu'il était à l'époque très petit, hein. Et puis ben il est dans cette boucle de l'intimidation, il ne voit pas d'issue, il pense à se suicider et il veut parler au conseiller scolaire, un moment où vraiment il est en train de péter un câble, et le conseiller scolaire est trop occupé pour le recevoir ce jour-là. Mais c'est pas le jour de la tuerie, donc il va encore mûrir cette rancœur. Et quelques jours avant la tuerie, il est à un cours, on va dire, je pense à un cours de théâtre, en tout cas, c'est un cours dans lequel les étudiants doivent jouer quelque chose. Et Charles n'a pas préparé sa scène. Donc, pardon, il fait quelque chose de très mauvais. Et le professeur l'humilie devant tous les élèves. Et donc, ça, c'est une sorte de goutte d'eau qui va faire déborder le vase de sa santé mentale. Et il pense au massacre de Columbine à ce moment-là. Il commence à évoquer auprès de d'autres étudiants l'envie de faire la même chose à Santana. Donc, pardon, je vais tousser. Il parle à plusieurs étudiants et même à un garde de sécurité du fait qu'il va venir avec une arme à l'école et tuer des gens. Mais c'est un petit gars, personne ne le prend trop au sérieux et donc,
Ça, c'est bon,
voilà,
ça.
on ignore cette menace exactement. Et lui, à ce moment-là, il se dit. Voilà, ça va être mon Suicide by Cops. Aussi un grand classique, hein, des histoires, de ce genre d'histoire. Et donc, le 5 mars 2001, il arrive à l'école, il rentre dans les toilettes, il est armé d'un calibre 22 qui volait à son père, et là, dans les toilettes, il abat un premier étudiant. Ensuite, il sort, enfin, tu vois, il se met entre les toilettes et le couloir, un peu pour se protéger, et là, il commence à tirer en direction des étudiants. Et au total, il va tuer 2 élèves et blesser 13 autres personnes, donc principalement des élèves, mais aussi 2 encadrants de l'école, jusqu'à ce que le SWAT interviennent. Et à ce moment-là, il change un peu d'avis. Et finalement, bah, il se rend. Donc, il n'est plus du tout dans cette idée de suicide by cops.
La chaîne y a
Il évite
poigné.
le procès. Oui, c'est ça. Il s'est dit, oh, bah, finalement, ouais, j'ai eu ma vengeance, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, parce que c'est un personnage comme ça. Enfin, il y a quelques interviews et le gars, il a toujours l'air de bonne humeur. Il est très gentil comme ça, mais c'est étrange parce que c'est comme s'il se rendait pas très bien compte non plus de ce qu'il avait fait. En tout cas, enfin, il n'a pas la gravité nécessaire pour par rapport à ce qu'il a fait. Mais il évite le procès parce qu'il plaide coupable. Il est condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 50 ans. Mais donc il y a cette décision qui vient de tomber là, qui dit que en fait potentiellement il pourrait demander une libération sur parole à partir de cette année, donc à partir du mois de mars. Il a fait son forfait en mars 2001, et donc ce serait en mars 2024 qu'il pourrait demander une sortie de prison. Alors, ça ne veut pas dire que s'il la demande, il l'aura, mais donc voilà, on pourrait quand même faire sortir un homme de 38 ans qui a tué 2 fois de prison. Je trouve que, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est un peu tôt, mais voilà.
Ben, c'est aussi sûrement aussi que le fait qu'il avait 15 ans au moment des faits
15 ans, c'est ça,
a peut-être
exactement.
pesé sa balance de ça aussi. Ah, il
Exact,
était,
exact.
t'sais, c'est ça, là, mentalement à ce moment-là, il était peut-être pas conscient non plus de ce qu'il faisait, des actes ou des, je sais pas trop, là. Mais bon.
Oui, c'est vrai qu'en Europe, par exemple, il n'aurait pas pu être jugé par une cour d'assises. Après, il y a eu des exceptions, hein, dont celle dont j'ai parlé dans mon tout dernier épisode du scénario du pire, où là, on avait un assassin de 16 ans qui a été jugé quand il avait 17 ans et qui a été jugé en tant qu'adulte. Mais voilà, 15 ans, c'est vrai que c'est un peu limite.
Ouais, ça commence
Et
à
voilà.
être jeune pour aller aux adultes, là.
15 ans, c'est vrai que c'est des enfants. Hein.
Mais ouais, c'est que ça me fait penser un peu aussi, tu sais, comme les histoires d'intimidation. Ça pourrait être une histoire qu'on pourrait faire aussi, là, la chanson de Pearl Jam, Jeremy,
Jeremy, oui,
qui est allé se
exactement, j'ai
suicider
pensé.
devant sa
Oui,
classe à cause de
tout à fait. Donc,
l'intimidation.
elle est dans la liste, effectivement. Il y a
Ça,
aussi,
c'est une
alors j'ai
bonne
oublié comment
toune.
elle s'appelle. Oui, c'est vraiment une très bonne tune. Il y en a une autre de Pearl Jam qui parle aussi de school shooting.
OK.
Je sais plus ce que c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est aussi un nom très court, c'est même période, j'ai oublié le titre.
OK,
Et
faut que je
oui,
check ça.
Jeremy, c'est effectivement une bonne chose. Et alors, il y a aussi une chanson qui évoque, mais de façon un peu moins explicite, ce genre d'affaire, qui est très connu, c'est Offspring, Come Out and Play, qui parle aussi en fait, de la violence à l'école, et donc c'est quelque chose qui inspire. Ouais, qui inspire beaucoup en fait les artistes. Mais voilà, moi je propose que par rapport en tout cas au meurtre de masse dans les écoles, on s'arrête là pour les balades meurtrières et qu'on explore
Je
d'autres
suis d'accord.
territoires. Mais c'est clair que Jeremy est dans la liste et on en parlera certainement
Éventuellement.
dans quelques mois. Voilà. Et puis on
Alright.
avait déjà fait I Don't Like Monday, hein, qui
Ouais,
est
ça y a
aussi
pas longtemps.
une histoire.
Qui est comme la première
Et
suivie
voilà.
d'école.
Ouais, déjà, c'était entre guillemets avant que ce soit un phénomène de société, tu vois. C'est vraiment Columbine. Depuis Columbine, il y a une accélération de ce genre de phénomène. Voilà, donc probablement lié aussi à la facilité de trouver une arme à feu aux États-Unis.
Ah
Ça
oui,
fait
puis
quand
la
même
solution, c'est d'armer les profs.
peur. Et oui, voilà, et mettre des gardiens.
Mettre plus d'armes, plus d'armes.
Ouais, plus d'armes, voilà.
Est-ce qu'ils sont épais?
Mais oui.
Fait que c'était l'histoire de ce midi, Philippe.
C'était l'histoire de ce midi. Voilà, bon appétit à tous. Voilà, la semaine prochaine, on partira dans une direction tout à fait différente et on parlera d'un cold case. Pour la première fois, moi, j'ai jamais dans ma carrière de podcasteur, j'ai dû raconter une quarantaine d'histoires criminelles au total, mais c'était toujours des histoires résolues. Et
C'est
la
ton
prochaine
premier
fois, à
cold
travers une
case.
chanson, on parlera d'un cold case.
Oh,
Mon premier cold case, ouais.
j'ai hâte d'entendre ça. Fait que,
Moi, j'ai hâte de vous le présenter.
merci beaucoup, Philippe, pour l'épisode. On peut encore écouter le scénario
Merci
du
à
pays,
toi.
même si c'est fini, ça.
Voilà, c'est fini, mais si vous avez encore si vous avez encore des épisodes que vous n'avez pas encore écoutés, ouais, il y a 28 épisodes qui sont à votre disposition, que bien sûr, je vais maintenir en ligne longtemps, hein, donc voilà, je continue à payer l'abonnement chez mon hébergeur, donc ça reste disponible. Et d'ailleurs, enfin, j'en parle pas trop, mais le dernier épisode a eu beaucoup d'impact. Et du coup, j'ai été contacté pour un projet, peut-être en télévision, en Belgique, voilà, autour d'une affaire criminelle, ouais, grâce à ce dernier épisode. Donc
Ah,
voilà, ça se
félicitations, je te le
négocie, ça se
souhaite.
discute encore, mais ouais,
Je te le
j'espère,
souhaite.
j'espère, ouais, c'est. Merci.
Tu le mérites.
Merci.
Merci beaucoup, Philippe. Et on se dit à la prochaine pour une autre balade meurtrière. Merci tout le monde. Au revoir.
Yes, merci à tous, bye bye.